Dans la petite ville, Charles-Louis-Philippe. Le retour. Il avait attendu que la nuit fût tombée. Il pouvait être 7h moins le quart lorsqu'il frappa à la porte. De l'intérieur, une voix qu'il ne reconnut pas tout d'abord cria « Entrez !» Il n'eut pas à tâtonner. Il retrouva le loquet à l'ancienne place, lui appliqua le pouce, ouvrit et entra. Sa femme ne fut pas surprise. Depuis 4 ans qu'il était parti, chaque fois que l'on avait frappé à la porte, elle n'avait pu s'empêcher de penser « C'est peut-être lui qui revient !» Elle tenait la soupière entre ses genoux, appuyait le pain sur sa poitrine, et, d'un geste qu'il lui avait toujours connu, le coupait en tranches pour la soupe. Elle ne dit pas un mot, posa la soupière et le pain sur une chaise. Puis, baissant la tête, saisit son tablier et s'en cacha le visage. Il n'était pas nécessaire de voir ses yeux pour comprendre qu'elle pleurait. Il s'assit, s'accouda sur le dossier de sa chaise et, ne trouvant rien à dire, regarda d'un autre côté. Il était tout penaud. Les 3 enfants, assis, penchés sur la table, étaient groupés autour de la lampe. Les 2 petits, Lucien et Marguerite, jouaient au loto. Ils virent que c'était un homme qui entrait, un homme comme tous les autres, qui viennent et parlent de choses n'intéressant pas les enfants. Ils continuèrent leur partie. Mais Antoinette, l'aînée, qui maintenant devait aller sur ses 13 ans et qui était occupée, son cahier grand ouvert à écrire ses devoirs, le reconnut presque aussitôt, malgré qu'il portât toute sa barbe, et fit « Oh, c'est papa !» Elle avait beaucoup grandi. Elle avait toujours ses petites manières à cause desquelles il aimait tant la taquiner, parce qu'elle avait la répartie drôle. Elle ne put poursuivre son travail. Elle se leva. Comme il tournait le dos, elle lui posa la main sur l'épaule. Il n'attendit pas plus longtemps et la regarda. Elle n'était pas timide. Elle le considéra avec un sentiment de triomphe et dit « Il y a longtemps que tu ne m'as pas appelé fruit de tes amours. » Elle avait toujours gardé cela sur le cœur. Quand ils vivaient tous ensemble, il était fourré toute la journée à l'auberge. Il était maréchal. Sa femme était forcée, lorsqu'un client venait avec un cheval affairé, d'envoyer Antoinette chercher son père. L'enfant arrivait au milieu des buveurs. Il la voyait venir, et s'adressant à ses compagnons, « Voilà ma fille, messieurs, ma fille aînée, le fruit de mes amours. » Chaque fois, elle était en colère. Il lui passa la main sur les cheveux et n'osa pas l'embrasser encore. Ce fut à ce moment-là, du reste, que la porte s'ouvrit sous la poussée d'un nouvel arrivant. Baptiste Rondet, celui qui était charpentier, entra avec une telle assurance que l'Arminja n'eut pas besoin d'explication pour tout comprendre. Il se leva, comme on le fait lorsqu'arrive le maître de la maison, et dit « Tu vois, c'est moi. » Baptiste répondit « Assis-toi donc. » Ensuite, il ajouta « Je suis comme ta femme. J'avais toujours pensé que tu reviendrais. » Puis, comme ils étaient des hommes et que les hommes connaissent la vie, ils ne gardèrent pas longtemps le silence. L'Arminja dit « Crois-tu que j'en ai fait une, Boulette ?» Baptiste Rondet s'expliqua à son tour. « Dame, moi, mon vieux, j'avais perdu ma femme. »« Ah, elle est morte, cette pauvre Adèle ?»« Oui, et puis je te réponds que ça a été vite fait. Une fluxion de poitrine en 3 jours. » j'avais perdu l'habitude d'être tout seul. C'est une bonne femme, ta femme. » L'Arminja répondit. « Moi, que veux-tu? J'avais tellement de dettes et puis plus d'ouvrage. J'ai pensé qu'il n'y avait pas besoin d'un sous-lot à la maison. Je suis parti, soi-disant, pour aller chercher de l'embauche. Mais j'aurais bien pu lui écrire. Oui, c'est au bout de 3 mois qu'elle a compris que tu l'avais quittée. Enfin, chacun ses défauts. » Ils se turent pendant un instant. Ils se connaissaient bien tous les deux. Ils étaient de la même classe. Ils avaient fait leur service ensemble, au 36e d'artillerie, à Clermont-Ferrand. L'Arminja y pensait et il dit « Celui qui nous aurait dit ça quand on était au régiment ?» C'est ainsi que s'opéra le retour de l'Arminja. Telles furent les paroles qu'il prononça. Les larmes ne peuvent pas durer toujours. La femme abaissa le tablier dont elle se cachait le visage, puis elle s'empara de sa soupière et de son pain pour aller dans une pièce dont la porte était ouverte et qui servait de cuisine. Antoinette, elle-même, voyant qu'elle ne comprenait pas tout ce qui se disait dans la chambre, finit par la rejoindre. Les deux hommes restèrent seuls, en face l'un de l'autre. Et l'Arminja dit « Je vois que j'aurais mieux fait de ne pas revenir. » Baptiste Rondet lui répondit « Que veux-tu? Il fallait bien que tu saches ce qu'était devenu ta femme et tes enfants. » Ils furent très gentils pour lui. Comme il s'agitait sur son siège, n'était pas à l'aise et semblait, ainsi que les gens qui n'ont rien à faire, avoir envie de partir, Baptiste Rondet lui dit « Tu vas tout de même rester manger la soupe avec nous. » Il accepta puisqu'il n'y avait pas moyen de faire autrement. Il ne pouvait pas aller à l'auberge puisqu'il était dans son pays. Alexandrine, la femme qui avait repris un peu d'assurance, entendit Baptiste et fut du même avis que lui. Elle montra sa tête dans l'encadrement de la porte, non pas pour faire une observation, mais pour dire qu'il n'y avait que de la soupe et du fromage et que c'était bien peu. Baptiste était un bon garçon. Il déclara qu'alors, il fallait envoyer chercher de la charcuterie et une bouteille de vin. L'Arminja, puisqu'il en était ainsi, ne voulut pas être en reste et sortit 20 sous de sa poche. Il tenait lui aussi à payer sa bouteille. Et avec ce qui resterait de la pièce, il n'y aurait qu'à acheter des friandises pour les enfants. Puis, par politesse, il ajouta « Je vous fais faire de la dépense. » Les petits enlevèrent bien vite leur jeu de loto quand ils surent que quelqu'un dînait à la maison. Ils étaient contents, ils voulurent mettre eux-mêmes le couvert. Alexandrine sortit une nappe qu'elle posa sur la table. L'Arminja s'y opposait, mais elle dit « Ma foi, j'en ai. Il faut bien que je m'en serve quand il vient quelqu'un. » Lorsqu'elle fut revenue avec du jambonneau, du fromage de cochon, ses 2 bouteilles et des gâteaux, on commença le repas. L'Arminja avait bien faim. Il le déclara sans détour. Et les quelques paroles qu'il prononça suffirent à amorcer la conversation. On lui demanda comment il s'arrangeait, où il couchait, où il prenait ses repas. C'est vrai, il ne leur avait même pas raconté qu'il venait de Paris. Il couchait à l'hôtel, il mangeait au restaurant. Le plus difficile, c'était pour se faire raccommoder, parce que l'on trouve difficilement quelqu'un. Il travaillait au métropolitain qu'on appelle. Il leur expliqua ce que c'était que le métropolitain. Baptiste dit « Dame, à Paris, on fait toutes sortes de travaux. » Ils firent un bon repas. Ce n'était plus Langevin, le père, qui était charcutier, c'était le fils. Mais sa charcuterie était bien bonne aussi. Les deux bouteilles y passèrent. Si Alexandrine n'avait pas dit qu'elle n'avait plus soif, il ne serait pas resté assez de vin pour manger le fromage. On avait oublié qu'une chose, c'était de prendre des cigares. Mais Larminja sortit encore une fois son porte-monnaie, en tira 10 sous et dit à Antoinette « Tiens, ma fille, va nous chercher 2 cigares. » C'était une enfant charmante. Non seulement elle consentit à y aller, mais encore elle eût voulu que son père l'accompagnât, elle l'eût promenée dans la ville. Sa mère fut obligée de lui dire « Allons, voyons, laisse ton père tranquille. Et surtout, ne dis pas au buraliste que c'est pour lui. Personne n'a besoin de savoir qu'il est là. » Il y eut un moment assez triste un peu plus tard. Ce fut lorsqu'on coucha les enfants. Avec les 2 petits, ce ne fut pas dur, ils dormaient déjà sur la table. Larminja leur donna à chacun 2 sous. Mais ils ne voulurent jamais dire merci, papa. Ils dirent merci, monsieur. Quand vint le tour d'Antoinette, elle se précipita sur son père. Il semblait qu'elle eût jusqu'alors gardé le silence pour ménager ses forces et pour crier avec plus d'expression « Je ne veux pas qu'il s'en aille, je ne veux pas qu'il s'en aille !» Elle s'attachait à son cou. La mère disait « Voyons, tu lui fais mal !» Il fallut la détacher, la décrocher, la défaire, lui promettre qu'il ne s'en irait pas. Larminja pleurait, Alexandrine et Baptiste aussi. Lorsqu'elle fut partie, Baptiste dit « Tu as vu cette petite ? Eh bien, il n'y a pas meilleure. J'ai toujours regretté qu'elle ne soit pas à moi. » Quand les enfants furent au lit, tout le monde se mit à bâiller. C'est qu'il se faisait tard. Les cigares étaient fumés. Comme il n'y avait pas de goutte à boire, on n'avait plus rien à faire. Larminja comprit son devoir. Il dit « Ah, il faut tout de même que je me décide à m'en aller. » On ne le retint pas. On lui demanda seulement par où il était venu. Il était venu par la gare. Il raconta même qu'il avait emmené sa malle avec lui parce qu'il avait d'abord envie de rester. Sa femme lui dit « Dame, tu n'avais qu'à ne pas partir la première fois. Que veux-tu ? Moi, je me suis arrangée. Je ne peux pourtant pas me marier et me démarier tout le temps. » Enfin, ça tombait bien. Il y avait un train à 11 heures. La gare était à 6 kilomètres. Il ne fallait pas se mettre en retard parce que le train n'attend pas. Baptiste lui dit, avant le départ, « Dans un de ces moments où l'on résume tout ce que l'on s'est dit, nous, tu vois comment on est. Mes meubles sont ici. Il y a un lit de plus que de ton temps. » Il lui montra leur installation. Le propriétaire avait fait faire quelques réparations. Il le mena dans la chambre des enfants. On avait mis du papier sur les murs et refait la cheminée parce qu'elle fumait. Les enfants dormaient à poings fermés. On leur donna un coup d'œil. Larminja n'osa pas les embrasser, de crainte de les déranger dans leur sommeil. Il dit « En effet, je vois que vous êtes confortable. » Il embrassa Alexandrine avant de partir. Puis, comme Baptiste lui tendait la main, il dit « Allons, embrassons-nous aussi, mon vieux. »